Voilà. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, et tout de suite vous dites, mais je connais ça. C'est simple. Et alors, ben écoutez, si c'est si simple, venez ici nous l'expliquer. Hein, ben souvent, c'est simple jusqu'au jour où il faut l'expliquer, même à un enfant. Si vous arrivez à l'expliquer à un enfant, eh bien, vous pourrez l'expliquer à n'importe quel adulte. Parce que ce sont des choses... Le titre de ma prédication, c'est « Les choses célestes ». C'est une expression que je prends dans ce chapitre, au verset 12. Dans ce verset 12, il dit « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Les choses célestes. Pour Jésus, elles sont une réalité. Pour Jésus, eh bien, il voudrait nous en parler, mais malheureusement, tant de gens, eh bien, ne l'entendent pas, ne saisissent pas. Vous savez, quand j'étais adolescent, je ressentais le besoin d'avoir de l'argent de poche. Je ne sais pas quel adolescent ne ressent pas ce besoin, mais j'avais un père qui ne donnait pas comme ça gratuitement. Hein. Il voulait responsabiliser, donc il a dit, écoute, ce que tu vas faire, si tu veux, je vais t'aider, j'ai installé un poulailler, et puis après, je te garantis le marché, c'est-à-dire j'achète tous les œufs, et puis tous les coqs pour la marmite, ben, je te les achète. Mais tu fais tout le travail. Et puis je les vendais au prix du marché. Mais au moins j'avais un marché sûr. Et j'ai fait ça pendant pas mal d'années, mais je me suis rendu compte aussi combien une poule, c'est pas très intelligent. Vous pouvez mettre du grain juste derrière le grillage là, la poule est de l'autre côté, vous ouvrez la barrière là-bas, mais elle ne s'est pas trouvée. Elle fait aller venue là, juste devant là, elle ne peut pas aller plus loin, elle ne comprend pas que si elle faisait le grand tour, passer par le, elle y arriverait. Elle est là, mais vous savez... Il y a pas mal, je pense qu'il y a des êtres humains aussi. Le Seigneur a ouvert la porte, mais ils sont là. Et tout à l'heure, pour reprendre l'image de notre frère, c'est le filet est percé, mais ils sont encore dans le filet. Parce qu'ils ne vont pas vers cette ouverture que Dieu a créée. Ils restent dans le filet et ils vont se laisser entraîner par le filet. Hein, parce qu'il y a des poissons qui se laissent prendre même par des filets percés. Et donc ce matin, ben, je prends ce chapitre de Jean 3, là où Jésus parle à Nicodème, un docteur de la loi, et à qui il fait cette déclaration. Il dit « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Et il parle à un homme, un docteur de la loi, un gars qui connaît l'Ancien Testament, qu'il l'a étudié, c'est un pharisien, il nous dit même dans le premier verset. Il est pharisien, il connaît, mais il coupe les cheveux en quatre avec la loi de Moïse. Et Jésus lui dit, mais comment ? Tu n'arrives même pas à comprendre les choses basiques de la vie et tu veux comprendre des choses du ciel. Le Seigneur est avec Nicodème ce soir-là. Nicodème, c'était pas peut-être pas forcément parce qu'il voulait venir en cachette, c'était peut-être parce qu'il voulait trouver un moment où Jésus ne serait pas interrompu par la foule. Hein, il voulait avoir un temps, parce que même il dit, vous voyez au verset 2, je vais lire le verset 1 et 2, il dit « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint à lui auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons. Donc il n'y a pas que lui. Il représente plusieurs autres, des collègues, je ne sais pas, quelques-uns avec qui ils avaient discuté. Et puis il dit, nous reconnaissons, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et donc, première chose qu'il admet, Nicodème, il dit, eh bien, écoute, moi, on t'a observé. Et j'ai quand même quelques questions à te poser parce que tu sembles avoir une connaissance sur des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Tu exprimes les choses autrement qu'on a l'habitude d'entendre. C'est un peu inhabituel. On voudrait comprendre. Et on est plusieurs là qui aimeraient vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. C'est vrai que nous voyons que si Dieu n'était pas avec toi, tu ne pourrais pas faire ces miracles. Mais il y a des choses que nous ne comprenons pas. Nicodème et ses confrères avaient vu des miracles et ils ne les remettaient pas en question, ils n'avaient pas de doute, ils disent non, c'est des vrais miracles, on n'est pas en doute, hein, c'est extraordinaire. Il dit oui, c'est certainement Dieu, ils n'ont pas attribué ça à Satan, hein, comme d'autres pharisiens l'ont fait dans Matthieu chapitre 14, mais il dit non, c'est Dieu, il n'y a pas de problème. Vous savez, et pourtant, j'ai un premier détail que je veux soulever là, c'est que le fait de voir des miracles et de croire que c'est Dieu qui fait le miracle ne donne pas la foi. Ce n'est pas le fait de voir un miracle qui donne la foi. Nicodème arrive, il dit, j'ai vu avec mes yeux, je comprends avec ma tête, mais il n'a pas saisi qui était Jésus. Hein? Et on peut vouloir faire tous les miracles, mais les miracles ne donnent pas la foi. La foi ne vient pas par le fait d'être témoin d'un miracle. Parce qu'en fait, le diable, il arrive à reproduire des miracles aussi. Hein? Si vous avez affaire avec n'importe quelle religion, hein? J'ai eu affaire avec plusieurs grandes religions, eh bien, tous prétendent des miracles. Tous ont des lieux où des miracles se passent. Et on ne peut pas mettre en doute tous ces miracles. Bien sûr, il y a des faux, mais il y a des vrais, et on ne peut pas les expliquer. Mais un miracle ne donne pas la foi. Un miracle étonne, un miracle fait remarquer que la personne attire l'attention sur une personne, hein, mais un miracle ne donne pas la foi qui sauve. Heureusement, parce que tout le monde n'a pas l'occasion de voir un miracle, et donc tout le monde ne pourrait pas être sauvé si c'est le seul moyen par lequel on peut être sauvé. Nicodème, docteur de la loi, chef des Juifs, et pourtant on a l'impression qu'il ne comprend pas les choses les plus basiques dont parle Jésus, les choses les plus basiques, les choses essentielles. Mais il est prêt à l'admettre. Il y a un proverbe japonais qui dit: celui qui confesse son ignorance le montre une fois, mais celui qui essaye de le cacher le montre plusieurs fois. Là, cet homme, au moins, on lui peut lui attribuer la vertu d'admettre. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Hein, même s'il était docteur, il aurait pu dire, il fait semblant, et puis bluffer, et puis essayer de... Non, celui-là, au moins, il a reconnu qu'il ne comprend pas, et il vient. Et j'espère que chacun d'entre nous sont prêts à reconnaître qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas et que nous voulons comprendre. Nicodème est prêt à reconnaître son ignorance et par la suite, parce qu'il était prêt à le reconnaître, parce qu'il a parlé avec le Seigneur, eh bien, nous pouvons lire par la suite dans le chapitre 50, et quand les Juifs, les pharisiens commencent à comploter contre Jésus, mais il dit, est-ce que nous pouvons le condamner si nous ne savons pas, nous ne l'avons pas entendu? Déjà, il commence à prendre position. Et ils vont lui dire, mais toi, est-ce qu'il y a un prophète qui vient de Galilée? Est-ce que tu as vu ça quelque part? Et puis, au moment de la croix, hein, dans Jean chapitre 19, quand Nicodème avec Joseph d'Arimathée, eh bien, ils viendront descendre le corps de Christ, il prendra le risque d'être mal vu et de perdre son statut dans la société juive en s'identifiant à Jésus-Christ. Hein. Et donc, parce qu'il reconnaît son ignorance là, parce qu'il admet qu'il est, eh bien, sa vie sera changée. Et l'histoire extra-biblique nous dit que finalement il est mort dans la pauvreté parce qu'il s'était identifié à Jésus-Christ. Alors cet homme vient et dit « Jésus, Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui m'échappe. Tu sembles avoir des connaissances que moi, je n'ai pas. Et Jésus, tout de suite, pour entrer dans le sujet, eh bien, au verset 3, Jésus lui répondit. Lui, il vient et dit, « Mais nous avons vu tes miracles, nous savons que Dieu est avec toi, et tout ça. » Et Jésus ne discute pas, il dit, « Oui, tu as raison, tu as bien vu. Hein, » Et ça, c'est rien, hein, je pourrais faire plus, tu verras. Non, il a pas. Si c'était un homme comme nous, il aurait fait ça. Hein, tout d'un coup, oup, il commence à surfer sur la vague. Mais là, Jésus, carrément, il dit, au verset 3, « en vérité, je te le dis. » Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà. Cet homme, il croit au royaume de Dieu, il croit que le Messie va venir, et il est là, il a son interprétation, il a ses idées. Et Jésus dit carrément, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jusque-là, Nicodème, il avait vu que l'aspect légaliste, l'aspect premier de la loi, et il a vu ça comme des règles, et il n'a pas vu qu'il y avait, ces lois avaient été données pour rendre conscient d'un besoin plus grand, il voyait que la loi et rien de plus. Et là, Jésus lui dit, au verset 3, « Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Si Jésus lui dit cela, c'est justement pour lui dire que reconnaître que les miracles viennent de Dieu ne suffit pas. C'est pas de dire... Ça, c'est Dieu, c'est beau. Ça ne suffit pas pour entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème avait reconnu, mais ça ne suffisait pas. Ce n'est pas la reconnaissance de la loi des prophètes non plus qui donne le salut de l'âme. On peut avoir... Moi, j'ai connu des gens qui connaissaient la Bible beaucoup mieux que moi, mais qui menaient une autre vie. Hein. Ils vivent dans le péché... il était même dans l'église et il roulait des gens de l'église, prenait leur argent, leur racontait n'importe quoi, il faisait n'importe quoi, et pourtant il avait des prières de prophète. Oh, c'était beau à écouter, mais citer des versets bibliques, il les connaissait par cœur, mais après il a fait de la prison. C'est pas ça qui sauve. Hein. C'est pas ça qui sauve. Nicodème comprend, il sent qu'il y a un besoin, qu'il a raté quelque chose. Pourtant, il s'était... Et peut-être sincèrement, un homme comme Nicodème, c'était peut-être sincère. Il cherchait, mais il n'a pas trouvé. Et Jésus ajoute avec insistance... Il dit, et c'est pas seulement qu'il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, mais il dit, en vérité, je te le dis, avec insistance, il a dit, écoute-moi bien, comprends ce que je te dis, c'est pas autrement. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Et si Jésus insiste, c'est parce qu'il veut qu'ils l'entendent, même si les pensées sont nouvelles et étranges. Et puis après, on voit le « nez de nouveau ». Alors si vous aviez votre Bible en grec, je ne sais pas si vous l'avez, hein, mais si vous l'avez, vous saurez que le mot là qui est traduit « nouveau », en fait, il pourrait être traduit aussi « d'en haut ». C'est un mot qui pourrait être « d'en haut », parce que quand c'est « d'en haut », c'est « nouveau », qui est « d'en haut ». Ou nouveau, quelque chose qui se répète. Et le plus souvent, dans la Bible, eh bien, c'est traduit d'en haut. Hein. Le plus souvent, ce mot-là est traduit d'en haut. Hein. On va le trouver plusieurs fois dans l'Évangile. Mais c'est pas faux que ce soit nouveau ou d'en haut. Hein, mais il dit... mais lorsqu'on lit le verset 6, eh bien, il dit « Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Alors là, on comprend. Il est en train de dire « Il y a eu une naissance, c'est de la chair, la naissance physique, et après, il y a une autre naissance qui est d'une autre origine, qui est par l'esprit. Hein, » donc, on comprend très vite, et l'esprit, bien sûr, il est d'en haut. Donc, c'est, les deux sont vrais. C'est d'en haut et c'est nouveau, hein, parce que c'est carrément autre chose. Nicodème a dû comprendre naître de nouveau de la même naissance. Parce que lui dira, au verset 4, il dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Lui, il a compris, répété, à nouveau. Et donc, il dit « Mais comment on peut pas renaître ?» C'est sûr que ça, certainement qu'il y a des gens à qui ça arrangerait de pouvoir recommencer. Hein, je vais renaître, je commence. Je remets le compteur à zéro et puis je repars. Ben, c'est vrai que si je mets le compteur à zéro, c'est que ça veut dire que je n'ai plus mon expérience, je n'ai plus mes connaissances. Je ne suis pas mieux que lorsque je suis né la première fois. Hein. Et en plus, si je renais une deuxième fois, le problème, c'est que je nais quand même avec la nature pécheresse. Si je nais d'un être humain, même si je peux recommencer, je vais naître avec la même nature pécheresse. Peut-être que je ne vais pas commettre les mêmes péchés, dire genre, j'espère pouvoir renaître, mais dans un autre contexte, ça irait mieux. Ben, vous savez, tous les niveaux sociaux de la société, tous les types, toutes les religions, n'importe où dans le monde, peu importe dans quelle famille vous naissez, si on commet des péchés. Hein. On peut dire je recommence, je ne vais pas faire les mêmes péchés, mais je vais en faire quand même. Et ce n'est pas une solution de pouvoir, je veux dire, si je pouvais renaître et repartir, et puis après je ferais mieux. Oui, mais tu n'aurais aucun souvenir, aucune expérience, tu ne pourrais pas bénéficier, tu repars comme la dernière fois, les mêmes péchés et les mêmes problèmes. Et donc, ce n'est pas ça. Et Jésus lui dit, mais non, Nicodème, ce n'est pas ça. Nicodème, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le milieu dans lequel nous vivons qui nous rend pécheurs. C'est parce que nous sommes dans le milieu que le milieu est pourri. C'est les hommes qui rendent. Si les hommes n'étaient pas là, vous allez dans un endroit où il n'y a personne, les choses se passent bien. C'est parce qu'il y a des humains et plus ils sont nombreux, plus c'est... Hein, c'est nous qui... Hein, on essaie de dire, oh ouais, mais Dieu, si c'était un Dieu qui était bon et si c'est un Dieu qui est vraiment... Comme il dit, plein d'amour, ben, il ne permettrait pas tout ça. Et bien, si il ne permettait pas tout ça, ça veut dire qu'il t'éliminerait toi aussi, avec les autres. Parce qu'il y a des tas de choses auxquelles j'ai pensé, mais je n'ai pas osé, parce que j'avais peur. Peur des conséquences, peur de ma réputation. Vous savez, on a tous eu des pensées. La réalité, si on avait tué tous les gens auxquels on avait envie de tuer dans la vie, on serait, c'est grave, hein, on serait tous en prison. Il n'y aurait personne pour nous mettre en prison. Le truc, c'est que, heureusement, hein, mais le péché est là, les pensées sont là. C'est étonnant parfois ce que quelqu'un peut provoquer et avec une parole et ce qu'ils peuvent provoquer comme pensée. Et puis ça s'emballe. Et heureusement qu'on arrive à s'arrêter et dire « Non, arrête !» Ou bien il y a quelqu'un qui nous dit « Écoute, arrête !»« Ne te laisse pas aller comme ça !» Et il y a des drôles de choses qui se passent quand ça s'emballe dans les pensées. C'est la société dans laquelle le milieu ne fait qu'influencer, mais il ne crée pas le péché. Il ne rend pas l'homme pécheur. L'homme est pécheur. Et après, la société, eh bien, elle peut lui fournir des opportunités pour aller dans une direction ou dans une autre. Les besoins, l'injustice, tout ça, bien sûr, il y a des réactions. Et puis, emballe, mais le problème, il est là. Et ce n'est pas renaître de sa mère qui changerait quelque chose. Ou il y a des religions qui parlent de réincarnation. Hein, c'est la même idée, c'est renaître. on veut renaître, on va recommencer. Et oui, mais si c'était vrai, ça veut dire qu'il y a, ils sont renés plusieurs fois, hein, et puis c'est pas mieux, hein, dans ces pays où on croit ça. Ils ont des problèmes aussi. Hein. Renaître, ça ne change pas, ça ne rend pas meilleur, rien du tout. Le problème, c'est la nature pécheresse qui est dans l'homme. Mais quand Nicodème dit « Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Eh bien, ça va donner l'occasion à Jésus de faire encore une déclaration. Parce qu'il va dire « en vérité, hein, c'est encore une fois, en vérité, au verset 6, « en vérité, je te le dis. » Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est extraordinaire, ce n'est pas le fait de renaître, c'est le fait de pouvoir renaître de l'esprit de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Renaître pour refaire la même chose, ce n'est pas la peine. Mais renaître avec une autre nature, ça, c'est une grâce de Dieu. Et de pouvoir renaître d'en haut. Quand Jésus dit cela, eh bien, il est en train d'exclure toute autre option qui est proposée comme moyen de salut. Il y en a qui disent le jeûne, il y en a qui disent ben, il faut être baptisé quand on est petit, il y en a d'autres qui disent qu'il faut être de cette religion, il y en a qui disent, il y a toutes sortes d'idées. Mais quand Jésus dit il faut naître de nouveau, il exclut tout le reste. Il ne dit pas « je vous propose une autre idée ». Non, non, c'est comme ça. Il dit « à moins d'être né de nouveau, il est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu ». Peu importe, hein, même moi je suis né dans une bonne famille, j'ai été aimé par mes parents, j'ai été élevé avec la trique. Bon, je n'ai pas les traces, mais dans le caractère, oui. J'ai été aimé. Je suis né, j'ai entendu l'évangile, je crois que j'avais quelques jours quand j'étais à l'église la première fois. Il y avait tout, mais il fallait naître de nouveau. J'ai entendu l'évangile. L'évangile que je crois aujourd'hui, c'est ce que mon père croyait, c'est ce qu'il disait. Mais il fallait que je naisse de nouveau. Hein? Dans la meilleure des situations, il faut naître de nouveau. Dans la pire des situations, il faut naître de nouveau. Naître de l'Esprit de Dieu. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, ça c'est une chose. Ce qui est né de l'Esprit, c'est une autre nature, c'est autre chose. Il faut que vous naissiez de nouveau. Maintenant, la naissance... De nouveau, ça ne peut pas naître de nouveau, c'est quand il dit il faut naître de l'eau et d'esprit. Hein? Eh bien, l'eau, hein, au verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître de l'eau, c'est pas le baptême. Je m'excuse, c'est pas le baptême de l'Église, c'est pas parce qu'il y a le mot eau et puis que dans le baptême on utilise de l'eau, donc c'est ça. Parce que, vous savez, si c'était le baptême d'eau qui sauvait, eh bien, Abraham, il n'est pas sauvé. Moïse n'est pas sauvé. David n'est pas sauvé. Et le pauvre brigand sur la croix, Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, mais on a oublié le baptême. Oh, bon, je m'excuse, hein, je voulais que tu sois, mais bon, tu n'as pas été baptisé, oh là là, comment on va faire? Non. C'est, vous savez, si c'était le baptême, il y a plein de monde qui n'est pas sauvé. Pourtant, Abraham, il a dit, la cité céleste, il savait, c'est par la foi, lisez Hébreux 11. C'est pas le baptême. Mais en plus, le baptême, tel qu'il nous est présenté, Romains chapitre 6, on l'a vu il y a peut-être quelques dimanches, là, début juin, le baptême, c'est un symbole de la mort. Tandis que la naissance, c'est la vie. C'est deux choses différentes. peut pas parler de naître nouveau, la mort, non, on est de nouveau pour vivre. Nous sommes nés pour vivre. La nouvelle naissance, ce n'est pas le baptême, mais c'est plutôt, comme il nous dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, il dit « Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Si naître de nouveau, bien la semence, tout comme il y a une semence qui est semée pour une naissance naturelle, eh bien il y a une semence qui est semée pour la nouvelle naissance. Et cette semence, c'est la parole de Dieu qui pénètre dans notre cœur. Vous ne pouvez pas devenir enfant de Dieu sans jamais avoir entendu la parole de Dieu. C'est tout. Pas plus qu'une femme ne peut avoir un enfant si elle n'a pas rencontré un homme. La semence, c'est la parole de Dieu. Et c'est lorsque je place ma confiance, ma foi dans la parole de Dieu, ce que Dieu a dit, et l'Esprit de Dieu est là pour m'aider à comprendre et pour l'appliquer à ma vie, et là, il peut y avoir conception d'une vie nouvelle et nouvelle naissance. Et il y a une nouvelle vie. Et une nouvelle vie parce que c'est pas la semence humaine avec une personne terrestre, mais c'est une semence céleste, la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Et donc, ça donne toute une autre nature. C'est une autre composition, une autre formule. C'est une autre vie. Et Romains chapitre 8, verset 16 nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Hein? » Vous avez du doute sur votre naissance, allez voir votre mère. Elle dit « Non, non, tu es mon enfant. » Elle sait. Quelqu'un a dit en Israël, bien sûr, il faut que la mère soit juive pour être juif officiellement. Parce qu'ils disent « La mère sait. » On ne sait pas qui est le père, mais on sait qui est la mère. Eh bien, l'Esprit de Dieu aussi, c'est équivalent, et il peut vous dire si vous êtes enfant de Dieu. Il dit « Je sais, j'étais là pour ta naissance, j'étais présent. » Il dit « Il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut avoir entendu la parole de Dieu. » C'est pour ça que c'est tellement important pour nous qui avons reçu Jésus-Christ, c'est de partager la parole de Dieu. Parce que les gens, s'ils ne l'entendent pas, même s'ils me voient, ils me disent « Oh, mais t'es gentil, je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais t'es gentil, tout d'un coup, t'as l'air heureux, t'es en paix, le visage est serein, tout ça, c'est beau. » Oui, mais je cache le secret. Mais si je lui donne la parole, je lui dis d'où j'obtiens cette vie nouvelle, alors là, il peut y accéder. Surtout qu'elle est disponible pour tous. Et si je lui partage la parole, je n'ai rien de moins. Donc, naître de nouveau, naître d'en haut. Et alors, le Seigneur parle là et Nicodème, il ne comprend pas. Pourtant, il est intelligent. Mais il n'arrive pas à saisir. Alors, Jésus va utiliser une autre image qu'il connaît bien. C'est un récit qui date de l'Ancien Testament, qui provient de l'Ancien Testament, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, et que nous pouvons lire dans Nombre, chapitre 21. Jésus les rappelle, parce qu'il n'a pas besoin de lui raconter l'histoire, il fait référence au serpent dans le désert, mais c'était un moment où les enfants d'Israël ont commencé à se plaindre. Il dit, il y a la nourriture, et puis en Égypte, et puis ils commencent à se plaindre. Là, il n'y a pas que les Français qui râlent, ça existait déjà avant. Donc, il ne faut pas trop les culpabiliser. Mais ils se plaignaient. Alors, Dieu leur a envoyé les serpents venimeux, vous savez ce qu'il fait, quand les serpents, ça mord, le venin, ça ne dure pas longtemps. Ça agit dans le sang. Et alors, très vite, ces enfants d'Israël, tout d'un coup, disent, oh, on a péché. Moïse, demande à Dieu d'enlever les serpents. Vous savez, ce genre de repentance, c'est léger. Hein. Et eux voulaient se débarrasser des serpents. Jésus a dit, non, j'enlève pas les serpents. Moi, je veux pas vous amener, vous soulager de la difficulté. Je ne veux pas vous apporter du soulagement, mais je veux un changement de cœur. Hein. Il y a beaucoup de gens, ils disent, oui, oh, Dieu, écoute, voilà, donne-moi la santé. Tu es un Dieu qui est bon et puis tu me laisses malade là, ça va pas. Il dit, moi, toi tu voudrais que je te guérisse, c'est la bonne santé. Vous savez ce que font les gens qui sont en bonne santé? Eh bien, ils ne prient pas souvent. Hein. Si j'ai de l'argent, si j'ai la santé, si j'ai une petite famille, et bien j'ai tout ce qu'il me faut, et bien je dis, mais je vais prier Dieu, pourquoi? Qu'est-ce que je vais lui demander? J'ai tout. Je me rappelle un jeune qui était à l'école, et puis ma femme lui dit, écoute, tu as un examen, là, il faudrait prier. Il dit, parce qu'il était assez doué, il dit, mais je prie, ça ne change rien. J'ai réussi, moi j'arrive à réussir sans prier. Vous savez, et si on n'avait pas les quelques petits ennuis dans la vie, tout ça, on aurait du mal à lever les yeux vers Dieu. Et là, les enfants d'Israël, tout d'un coup, ils se mettent à se repentir, tout ça, parce que ça va mal, il y a les serpents. Et Dieu dit, non, moi je veux pas juste vous soulager pour que vous soyez contents, mais je veux de changement de cœur. Parce que si vous êtes plein, c'est parce qu'il y avait quelque chose dans le cœur. Il y avait manque de satisfaction, manque de reconnaissance. Vous avez oublié ce que Dieu a fait pour vous. Et alors, Dieu dit à Moïse, écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dresser une perche au milieu du camp, et là, tu mettras un serpent d'airain, quelque chose qui va symboliser le serpent, quelque chose qui représente un peu le serpent, et tu vas l'étendre là. Et puis, tu diras aux gens que quand ils auront été mordus par un serpent, eh bien, s'ils se tournent et regardent vers ce serpent d'airain, ils seront sauvés. Bon, c'est pas ce serpent d'airain qui pouvait les sauver et neutraliser le venin dans le sang. C'est pas du tout. C'était un serpent d'airain, c'est pas rien du tout. Mais c'est le fait de tenir compte de ce que Dieu a dit qui était important. Et Dieu a dit, regardez par là, vous serez sauvés. Eh bien, c'est le fait de dire, bah, Dieu l'a dit, donc je le fais. Même si je ne comprends pas comment c'est possible, il dit, c'est parce que Dieu l'a dit, tu le fais. Et ça, c'est important. Et c'est ça qui apporte le changement. Et le changement dans notre vie commencera le jour où je commencerai à penser, Dieu l'a dit, donc je le fais. Et je comprendrai plus tard. Et alors... Moïse a fait exactement ce qu'il a fait. Et ce que Dieu aussi, c'est que le peuple voulait une solution qui générale. Chasse les serpents et on sera tous contents. Jésus voulait une réaction individuelle. Chacun doit regarder. Il n'y en a pas un qui regarde pour tout le monde. Chacun doit regarder. Celui qui regarde, eh bien le venin sera neutralisé dans son sang. Et Jésus est en train de parler à Nicodème. Il dit, tu sais comment ça s'est passé? Tu as bien réfléchi comment ça s'est passé? Eh bien, vous voyez, regardez maintenant, je vous lis le verset 14. Jean chapitre 3, verset 14. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il rappelle ça à Nicodème et dit, tu sais, c'est pareil, et Jésus est en train de parler de lui-même. Et là, ce n'est pas encore la croix. Jésus se projette. Il dit, le Fils de l'homme sera élevé. Peut-être que Nicodème ne comprend pas complètement ce que ça veut dire, le Fils de l'homme sera élevé. Mais il dit, il sera élevé comme le serpent. Ce n'était pas beau. C'était un serpent mort sur la croix, sur la perche. C'était un Jésus mort sur la croix. Mais quiconque croira aura la vie éternelle. Tout comme dans le désert, celui qui a regardé vers ce serpent d'airain il a eu la vie sauve. Il dit de même, celui qui regardera à Jésus-Christ aura la vie éternelle, une autre vie. Et comme, vous savez ce que ça veut dire comme ? Ça veut dire exactement pareil, avec la même efficacité, la même simplicité. C'est une décision individuelle. Même un papa qui a son petit enfant qui est là, qui vient d'être mordu, il est obligé de dire « Regarde, regarde, regarde !» Il ne peut pas le faire pour lui. Même s'il l'aime, il est obligé de dire « Regarde par là-bas !» Et donc, Jésus dit « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit. » Quiconque, c'est individuel, c'est n'importe qui, il n'y a pas de condition. Il dit, c'est pas quelqu'un qui a pu mettre de l'ordre dans sa vie avant de venir. Non, non, il dit, tu viens dans l'état où tu es. Et quiconque croit aura la vie éternelle. C'est sa mort, la mort de Christ, le sang versé de Christ, c'est la seule antidote à l'effet du péché dans l'homme. C'est la seule. Mais gloire à Dieu, il y a une antidote. Avant-hier, je parlais avec un frère en Algérie, et puis parce qu'en Algérie, il y a cette habitude de quand quelqu'un arrive d'un certain âge, on l'appelle Hajj, même s'il n'a pas été à la Mecque. Rien que par respect, une personne d'un certain âge, on l'appelle Hajj. Alors lui, comme il avait un certain âge, il dit, il y a des gens qui m'appellent Hajj. Je lui dis, écoute, ne m'appelle pas Hajj. Parce que, il dit pourquoi ? Il dit, ah oui, bah, parce que quand ils reviennent, ils ne sont pas toujours meilleurs. Hein. Ça ne change pas. Ça ne change pas l'homme. Ce n'est pas le fait d'avoir fait un pèlerinage, le fait d'avoir... Même si c'était sincère, ce n'est pas ça qui change. Il faut cette nouvelle naissance. Il faut croire. C'est le fait de croire. Et ce qui est extraordinaire avec le fait de croire, c'est que c'est à la disposition de n'importe qui. Hein, ça ne coûte pas trop cher. Bon, ça coûte un peu sur la fierté de quelqu'un. On aimerait pouvoir dire « j'ai fait ça pour Dieu ». Mais lui, il dit « non, non, je ne veux rien. Je veux que tu crois. Tu viens et tu m'apportes rien. Et tu viens à moi. » La nouvelle naissance, la vie éternelle, finalement, Jésus met l'équivalence, hein, s'obtient par la foi en celui qui a été élevé sur une croix afin de nous délivrer de la morsure du péché. Vous reconnaissez, dans le désert, il fallait que quelqu'un reconnaisse qu'il avait été mordu et que le venin, hein, il voit les deux trous là, il fallait qu'il sache que le venin commence à agir. Et si lui ne réagit pas à temps, c'est trop tard. Et qu'il fallait prendre l'initiative et écouter la parole de Dieu. Et bien de même aujourd'hui, bon, c'est pas juste 2-3 heures comme pour le venin d'un serpent, peut-être c'est pour certains c'est 20 ans, pour d'autres c'est 40 ans, pour d'autres c'est 60 ans, pour d'autres ça peut être 90 ans. C'est le temps, mais vous savez, le péché fera son effet. Et après c'est irréversible, hein, on peut pas, une fois que, hein, on peut avoir tout le sérum qu'on veut, une fois qu'il est mort, il est mort, hein. C'est avant. Et c'est important pendant notre vie, c'est que l'antidote soit là, le sang de Christ. Et le sang de Christ est efficace, et c'est le même principe du sérum, parce que lui, il a pris le péché sur nous. Vous savez, le sérum qui protège, eh bien on donne le poison à un cheval, et puis après on récupère son sang, et puis on récupère ce qu'il faut. Eh bien, il faut qu'il y en ait un qui meure pour que d'autres soient sauvés. C'est ça le prix d'un sérum. Et bien dans le cas aussi de Jésus-Christ, il fallait qu'il y en ait un qui prend sur lui la maladie, le péché. Il nous dit, Jésus est devenu péché, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Et après, alors, verset 16, ce verset que nous avons tellement entendu, mais finalement qui n'a pas de sens si on n'a pas compris le reste, il dit, Dieu a tant aimé le monde, voilà la motivation, qu'il a donné son Fils unique, voilà le prix, afin que quiconque croit, voilà ce que nous avons à faire, et le résultat, il ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. C'est le résultat, la vie éternelle, une nouvelle vie, une vie à vivre. Et ensuite, Jésus continue dans ce passage, dans le même contexte, il va nous donner un indicateur pour permettre de reconnaître ceux qui sont vivants. Vous savez, quand quelqu'un a été mordu par un serpent, et après vous faites une injection, vous lui donnez le sérum, mais après vous aimeriez commencer à voir des signes que ça va mieux. Hein, on regarde pour voir s'il n'y a pas des signes, pour être sûr que ça a pris, hein, qu'il y a des résultats. Mais aussi pour nous, hein, si nous avons été inoculés par le sérum céleste, le sang de Christ, eh bien, nous voulons voir du changement. Et pas continuer à voir les résultats du péché. Alors Jésus dit, versets 20 et 21, il dit... Car quiconque fait le mal est haï la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Est-ce qu'il y a une partie cachée de votre vie? Il y a une partie que vous voulez que personne ne voie? Eh bien, c'est que quelque part, ça a besoin d'être. Le Seigneur a besoin d'intervenir là. Vous savez, parfois, on a dans les placards de notre vie, parfois, il y a certains placards avec il y a un cadavre là-dedans. Ou bien il y a des chambres où. On dit Jésus, tu es un invité, je suis content que tu es dans la maison, mais tu restes au salon, hein, tu ne vas pas ailleurs. Et il y a des chrétiens qui vivent comme ça. Ah, il dit, c'est comment? Tu dis que c'est mon temple et puis je n'ai pas le droit de circuler dedans. Tu dis que tu m'aimes, mais tu me dis, reste là, viens, je t'ai acheté un beau fauteuil, tu restes là. De temps en temps, je viendrai te voir, je te parlerai. Mais sinon, tu restes là, tranquille, et puis moi, je circule, je fais ce que j'ai à faire dans le reste de la maison. Il y a des chrétiens qui vivent comme ça toute leur vie. Et certains, c'est au point qu'on ne sait même pas, on ne se rend même pas compte, des gens d'extérieur, ils ne se rendent même pas compte de Jésus dans la maison. Et peut-être qu'il ne l'est pas, s'il n'y a aucun signe. Il n'y a pas de lumière qui sort. Parce que là où Jésus, il y a de la lumière. Ils disent, on passe devant cette maison, c'est toujours sombre. Mais où est le Seigneur? Peut-être ils l'ont enfermé dans une chambre et puis ils ont tiré les volets pour que personne ne le sache, ou bien peut-être il n'est pas là. Il dit, mais celui qui a le péché... Eh bien, il n'aime pas venir à la lumière. Vous avez déjà, dans votre jardin, là, tout d'un coup, vous soulevez une pierre, et puis après, il y a toute une population, là, qui disparaît. Il n'aime pas la lumière. Hein, tout d'un coup, ils partent. Et vous savez, il y a des gens aussi, déjà, à peine si vous commencez à parler de Dieu, tout d'un coup, ah ben, moi, j'ai rendez-vous, là, je vais aller à la cuisine, moi, je vais... Puis, vous trouvez un mariage, vous trouvez tout seul. Celui-là, il parle de Jésus, hein. Pff, il est un peu bizarre. Puis, ah oui, non, mais vous avez soulevé une pierre, et puis, hop, oh là là. C'est pour ça que je reste pas tard au mariage, à certains mariages. Je pars parce que comme ça, ils sont libres de faire ce qu'ils ont à faire, parce que je dérange. Mais c'est comme ça. Il dit, car quiconque fait le mal est, voyez la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Le même apôtre, dans la première épître de Jean, hein, donc le même apôtre dans sa première épître, alors au premier chapitre, eh bien, il reprend ce thème de la lumière. Et justement, je lisais avec quelqu'un cette semaine, ici au fond de la salle, et on a lu ce passage dans 1 Jean, chapitre 1, et verset 7, il dit, « Si nous marchons dans la lumière, je vais commencer au verset 6, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. » Il dit, « Je viens à l'église, je dis à tout le monde, moi j'aime le Seigneur, mais toute la semaine, je vais une autre vie. Il dit, c'est un menteur. Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si je suis enfant de Dieu et je suis dans la lumière, je marche dans la lumière, le sang de Jésus son Fils est là en train de constamment purifier des péchés. Mais si je suis du genre à vouloir toujours aller dans l'ombre, hein, je marche et puis je dis que je suis dans la lumière, mais je vis dans l'ombre, eh bien, dit celui-là, il n'a jamais reçu la lumière. Peu importe, même s'il a fait une prière, il y en a plein qui ont fait des prières où ça n'a rien changé. Ce n'est pas parce que Dieu a été infidèle, c'est parce que la personne voulait juste une petite formule pour essayer de... Hein, il ne se sentait pas bien ce jour-là. Et il a prié une formule, quelqu'un lui a suggéré, et puis, mais il n'a pas compris ce que Christ a fait pour lui. Et je vous dis, si vous avez du doute, n'essayez pas de sauver votre image dans l'Église. S'il y a eu du doute, ben il faut faire comme Nicodème. Vous voyez, docteur de la loi, mais il vient à Jésus, ce gars de Galilée, là, rien de bon ne pouvait sortir de Galilée, mais il vient le voir, il reconnaît son ignorance, mais il a reconnu son ignorance une fois, et il a pu régler le problème. Une fois que la morsure a été constatée, il faut injecter le sérum dans les veines du patient. Et puis après, il est indispensable de constater une neutralisation de l'effet du poison. Et bien, pareillement dans la vie du chrétien, et bien, le sang de Jésus-Christ neutralise l'œuvre du péché. La vie commence à paraître. Et il faut que ça soit évident, il faut que ça se voit. Pas seulement la personne déclare. Vous savez, si vous, vraiment la vie de Christ est en vous, vous n'aurez pas besoin de dire aux gens... Je crois en Jésus. Il dit, mais c'est à qui tu crois? Il y a quelque chose, ça change. Je vois de la lumière qui sort. Qui met cette lumière dans ta vie? D'où te vient cette paix? D'où te vient cette sérénité? Et alors, vous pouvez lui donner l'adresse. L'adresse, c'est B-I-B-L-E. Et c'est là qu'ils vont le trouver. Alors, il dit... Il est indispensable de voir qu'il y a une nouvelle naissance. Et la parole de Dieu et l'Esprit concordent pour créer et pour nous donner une vie nouvelle. C'est une nouvelle naissance, mais c'est une naissance d'en haut. Ce n'est pas une répétition de l'ancienne, c'est une nouvelle naissance d'en haut. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul pourra dire dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Les choses anciennes, sont passés et toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Pas seulement le dimanche matin, j'ai une autre habitude, mais c'est toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une vie nouvelle, c'est une nouvelle naissance. Avec tout ce que ça veut dire. La question ce matin, c'est êtes-vous né de nouveau? Avez-vous cru en la parole de Jésus? Que sa mort sur la croix est suffisante pour sauver, pour vous délivrer. C'est l'antidote pour le problème du péché dans la vie. Et puis après, avec l'œuvre de l'Esprit, eh bien, j'ai une nouvelle naissance. Vous savez, il y a le prénom René. Le prénom René, ben, veut dire renaître. On le donne qu'aux filles, c'est dommage, hein, parce que ce serait un beau nom pour les garçons aussi, peut-être. Mais... Si, ça existe pour les garçons aussi, René. Si. Et René, mais c'est renaître, mais que ça soit pas seulement un prénom, mais que ça soit une réalité dans la vie. Hein? Qu'on soit tous des René. Hein? Que les gens aient envie de nous dire, toi, je t'appellerai bien René. Hein? Parce que ça exprime bien ce qui est arrivé chez toi. Hein? C'est ça que nous voulons voir chez le chrétien. Mais la question c'est, est-ce qu'il y a des signes? Je prétends être né de nouveau, mais est-ce qu'il y a les signes? Est-ce qu'il y a une transformation? Et une vie, ça se développe, ça veut dire qu'il y a du progrès. Si je suis encore aujourd'hui ce que j'étais il y a 3 ans, Ça, on ne peut pas dire qu'il y a croissance. On ne peut pas dire qu'il y a vie. Si vous aviez un enfant qui a 5 ans, mais il est toujours dans le petit lit, et avec ses couches, et avec son biberon, et puis il fait heureux, et des jolis sourires, c'est mignon quand ça a 6 mois, mais c'est pas mignon quand ça a 3 ans. Hein. Mais le Seigneur, il veut pas avoir des bébés non plus. Hein. Le ciel, c'est pas une pouponnière. Il veut des chrétiens matures, qui vivent, qui croissent, qui se développent, qui vivent pour lui. Jésus était mignon, bébé. Les bergers sont venus, ils étaient contents de le voir. Ils sont repartis, louant Dieu. Mais il n'est pas resté bébé. Hein. L'essentiel de l'évangile, ce n'était pas sur sa naissance et ce qu'il a fait en tant que bébé et les petits sourires qu'il a fait. C'était ce qu'il a fait en tant qu'homme mature et qui marchait pour Dieu. C'est ça que nous voulons reproduire. Oh, c'est à chacun de nous de nous évaluer nous-mêmes et de voir, oui, la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance, ça a un sens, ça a un point de commencement. Mais après, ça se continue, ça se développe et ça se manifeste dans notre vie. Et Jésus a dit, il n'y a que ça, il n'y a pas d'autre moyen. Merci Seigneur. Hein, c'est pas que Jésus est un chemin parmi les chemins. Il a dit, je suis le chemin. Mais loué soit Dieu qu'il y ait un chemin. Parce que sans lui, il n'y en avait pas. C'est comme l'histoire que j'ai lue, l'histoire d'enfant du singe qui tombait dans un marécage. Et vous savez comment c'est les marécages, on dedans, on tire avec un pied, on essaie de sortir un pied, c'est l'autre qui s'enfonce, et après un pied, l'autre, et puis après. Et le pauvre singe, il ne pouvait plus sortir. Et son collègue qui était sur le bord, là, il ne savait pas quoi faire, il sautait, il lui dit, essaye, tire, monte, toutes sortes de choses. Finalement, il ne savait pas quoi dire, il lui dit, tire sur la moustache. Et oui, mais il y a des gens assez désespérés, c'est presque tirer sur la moustache. Hein. On essaie de se soulever en tirant sur ses bottes. Et beaucoup de gens, c'est comme ça. Mais ce n'est pas la réponse. Il faut que quelqu'un de l'extérieur intervienne et me tire de là. C'est ça qu'il me faut. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça le message de l'évangile. Mais loué soit Dieu qu'il y a quelqu'un qui tend la main pour prendre. Il suffit que je place ma main dans sa main. Même si elle est percée, elle est plus forte que toutes les autres. Nous allons prier, puis ensuite nous allons avoir un moment de silence où chacun peut voir sa vie et voir si ça correspond à ce que je prétends être né de nouveau. Ou peut-être qu'il y a toutes les indications pour dire, mais je ne suis pas né de nouveau et je le voudrais. Vous savez, même maintenant, là, dans ce moment de silence, vous pouvez demander à Dieu, dire, Dieu, j'ai enfin compris, j'ai saisi, sauve-moi. Je veux naître de nouveau, je veux être à toi. Prions.